En parlant de la chaîne d'âme, il me semble que si on essaie de comprendre qu'est-ce que signifie une chaîne d'âme, ça implique deux éléments. D'abord une unité dans une dépendance, la chaîne, une dépendance mutuelle, donc une unité de charité fraternelle, et une chaîne d'âme. L'âme n'est pas d'abord tournée vers le prochain, elle est tournée vers Dieu. Et elle vient de Dieu. Et il me semble que ce qui permet de faire l'unité entre les deux, à la fois être tout tourné vers Dieu, et à la fois être lié dans la charité fraternelle, dans une dépendance mutuelle, je crois que c'est le propre de l'adoration. C'est pour ça qu'il me semble que la chaîne d'âme, c'est, il me semble, une communion spirituelle de ceux qui adorent. On va essayer quelques éléments d'adoration, parce que malheureusement, nous ne savons pas bien ce que c'est, la plupart du temps. Et donc, prendre quelques éléments, parce qu'en petite heure, ce serait un peu difficile de faire plus que quelques éléments. Quand je parle de l'adoration, je ne parle pas premièrement de l'adoration du Saint-Sacrement. Je parle de l'adoration du Créateur. Et ça, c'est capital, puisque Dieu, en tant que Créateur, est source de notre âme. Notre âme ne vient pas de nos parents, elle vient de Dieu, d'un acte qui est un acte d'amour et de lumière, qui est toujours actuel, parce qu'il est au-delà du devenir. Son effet est dans le devenir, l'existence de notre âme. Mais cet acte est au-delà du devenir, donc il est toujours actuel. Donc notre être provient par l'âme de Dieu créateur dont il est dépendant, dont elle est dépendante. Et je crois que c'est capital de se rappeler ça, parce que la première forme de la prière, qui d'ailleurs n'est pas réservée à la prière chrétienne, qui n'est pas réservée aux chrétiens, mais qui devrait être la prière de tout homme, c'est d'adorer son Créateur et Père. Et aujourd'hui, on doit le reconnaître. Donc, un homme n'est parfaitement homme que s'il adore. Et aujourd'hui, on doit reconnaître que les hommes n'adorent plus vraiment, et ça veut dire les chrétiens non plus, malheureusement. Ce qui explique beaucoup de choses aussi. Or, l'adoration, c'est dans les modalités de la prière, quand il y a plusieurs modalités de la prière. Il y a la prière d'intercession, de demande, il y a la prière d'action de grâce, il y a la prière de louange, il y a la prière, après, au niveau surnaturel, le raison et la contemplation. Mais la prière la plus fondamentale de notre cœur, c'est l'adoration. Et Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, nous l'enseigne. Lorsque le peuple d'Israël en Égypte est sous le joug tyrannique du Pharaon, et les pharaons représentent la tyrannie de l'efficacité humaine, tellement actuelle aujourd'hui. Et donc le peuple d'Israël, qui est sous ce joug du pharaon, se laisse séduire par le bien-être, la richesse, l'abondance, la gloire, et le peuple d'Israël oublie sa vocation divine. Et pour arracher son peuple à cette tyrannie, parce que Dieu ne peut pas tolérer cette misère de son peuple, cette misère spirituelle, Dieu se révèle à Moïse et lui communique sa volonté. Il veut que son peuple parte 3 jours au désert pour adorer. C'est par l'adoration dans le désert que Dieu veut rééduquer son peuple et lui réapprendre sa vocation. Je crois que c'est capital de saisir que c'est l'adoration qui rectifie fondamentalement notre cœur quand il se corrompt. Vous auriez la même chose avec la Samaritaine, cette femme qui a 5 maris, donc qui n'est plus aimée et n'aime plus. Eh bien, qu'est-ce que Dieu enseigne à cette femme pour que se réveille sa capacité d'aimer? Eh bien, Dieu lui enseigne, lui parle de l'adoration. Alors, c'est l'adoration en esprit, en vérité, mais c'est quand même l'adoration. Et donc, je crois que c'est Dieu lui-même qui nous enseigne que c'est l'adoration qui rectifie notre vie, Pourquoi? Parce qu'elle permet à notre âme de se mettre dans l'axe de ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire de pour Dieu, ce qui permet de sortir d'une laïcisation de l'âme. Et ça, c'est capital, parce que malheureusement, vous voyez, les chrétiens ne savent plus du tout ce que c'est que l'adoration. L'adoration, c'est donc un acte volontaire. Vous n'adorez que quand vous voulez adorer. Ce n'est pas un acte instinctif, hein, c'est un acte volontaire par lequel la créature s'efface devant Dieu créateur en reconnaissant cette dépendance actuelle dans l'ordre de l'être à l'égard de Dieu créateur. L'adoration, c'est un amour, mais c'est un amour d'effacement qui laisse Dieu passer devant. Et donc c'est un amour qui reconnaît les droits absolus de Dieu créateur sur nous. Et par l'adoration, j'allais dire, c'est un acte de politesse à l'égard de Dieu, puisqu'on reconnaît qu'on vient de lui et qu'on retourne vers lui. Eh bien, l'âme reconnaît que Dieu est à l'origine de tout ce qu'elle est, l'origine de notre être, et qu'elle dépend actuellement de lui. Si Dieu suspendait son acte de création, pour la créature humaine, il y a un acte de créateur pour chacune des créatures humaines. Ce qui n'est pas le cas pour les animaux. Il n'y a pas un acte propre de créateur de Dieu pour un petit chat. Non, non, non. Pour les animaux, c'est au point de départ et ensuite c'est la série. Tandis que pour chacun de nous, il y a un acte d'amour et de lumière qui est source de notre aide. Dieu pourrait l'arrêter, le suspendre. À ce moment-là, nous retournerions au néant. Alors, comme disent les théologiens, de puissance absolue, il pourrait le faire, mais il ne le fera pas, donc je vous rassure, parce que ce serait contraire à sa sagesse. Et donc, c'est très important que notre être, donc c'est notre âme, et par notre être, par notre âme, notre corps fait partie de notre être, donc l'attitude du corps doit aussi accompagner l'attitude intérieure de l'âme. Donc l'adoration, c'est un acte d'abord intérieur de l'âme, un acte d'amour intérieur, et le corps accompagne. À la fois dispose et accompagne. Et par l'adoration, notre âme et la créature que nous sommes disparaît en face de Dieu pour reconnaître que nous ne sommes rien. Rappelez-vous ce que Dieu dit à Sainte Catherine de Sienne, rappelle-toi qu'avant d'être quelque chose, tu n'es rien. Parce que nous avons été créés à partir de rien. Et donc, la créature disparaît en face de Dieu, s'efface. Elle reconnaît qu'elle n'est rien en face de la majesté de Dieu, et elle sait que la créature n'est pas digne de se tenir debout en face du Créateur. C'est pour ça que l'Écriture dit qu'aucune créature ne peut voir Dieu sans mourir, sans s'effacer. Et donc l'adoration, c'est ce qu'elle réalise, elle nous fait mourir à nous-mêmes. Il faut proclamer que Dieu est premier, et premier servi, comme disait Jeanne d'Arc. Et c'est vraiment par et dans l'adoration que la créature raisonnable se présente à Dieu en reconnaissant que par elle-même, elle n'a rien et que tout vient de Dieu. Donc l'adoration permet de rectifier notre vie. Pourquoi ? Parce que elle nous remet dans une attitude de vérité pratique. Quand nous n'adorons pas, nous ne sommes pas dans une attitude de vérité. La vérité étant la conformité à la réalité. Nous devons reconnaître que notre être dépend actuellement de Dieu et retourne vers Dieu. Et l'adoration manifeste tout l'abîme qu'il y a entre Dieu et nous. Et même dans le cœur du Christ, nous verrons, qui a une âme créée, le cœur du Christ, le Christ n'est pas une créature, mais il a une âme créée, il y a une adoration. Et cette adoration, elle demeure dans la gloire. Éternellement, nous adorerons dans la gloire, nous adorerons le Créateur. Et donc c'est bien de commencer sur terre, hein, puisque c'est un acte qui durera après. Et ce qui est important, c'est que cet effacement de Dieu n'est pas un effacement servile. Dans l'acte d'adoration, qui est un acte libre, un acte volontaire, et c'est vrai, quand nous adorons, pour que le corps aide, parce que c'est vrai, si vous vous mettez dans un transat, ce sera un peu difficile d'adorer intérieurement, même si l'acte est intérieur, il faut que l'attitude du corps dispose, accompagne, on se met à genoux, on se prosterne, donc c'est un acte libre. Eh bien, Dieu n'apparaît pas comme un tyran voyez, ou un rival qui écrase et qui maintient dans l'esclavage, il apparaît comme celui qui est créateur et père, celui qui est source de tout amour, de toute vie, de toute lumière de notre vie. Et vous voyez, dans l'acte d'adoration, qu'est-ce qu'on fait? On se met en face de Dieu, et on se met à genoux, on se prosterne, et on dit à Dieu, au Créateur, qu'on veut l'adorer, qu'on veut se prosterner devant lui, qu'on veut s'effacer devant lui, qu'on veut le laisser passer devant. Et on répète ces actes d'adoration. Et pour que l'adoration augmente à chaque acte d'adoration, il faut que nous ayons tout notre capital de vie présente dans cet acte. Donc il faut que notre acte intérieur, volontaire, soit un acte qui assume tout notre cœur. Vous voyez ? Si vous êtes là en train de faire autre chose en même temps, cet acte n'a pas toute son intensité, et donc il n'aura pas son efficacité particulière, parce que si votre acte assume toute votre capacité d'aimer, eh bien, il augmente, à la fois suivante, il augmente l'intensité de votre acte d'adoration. Vous voyez, vous pouvez adorer chaque jour un peu plus profondément. Et au début, ça vous paraîtra des mots, quelque chose d'abstrait. C'est normal, parce que, comme toujours dans l'ordre de l'amour, l'amour n'est connu que par celui qui aime. Et il faut que notre acte d'adoration, qui est un acte d'amour à l'égard de Dieu, donc réservé à Dieu, donc par pitié, ne dites plus « j'adore le chocolat » ou « j'adore mes enfants ». Non, 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 non. Vous les aimez beaucoup, mais vous adorez que Dieu. Et quand on adore vraiment Dieu, on est sensible à ce qu'on n'utilise pas ce mot pour une créature. C'est réservé à Dieu. Et donc au début, ça paraît très abstrait parce que l'acte n'étant pas très intense, eh bien, on n'en a pas une expérience intérieure suffisante. Et puis, si on le répète, si on l'intensifie, eh bien, progressivement, cet acte prend une force plus grande dans notre cœur, et à ce moment-là, on le connaît, et on sait ce que c'est. Et ce qui est merveilleux, c'est de se dire que si vraiment on adore de tout notre cœur, eh bien, tout notre capital est tourné vers lui, et que on peut chaque jour adorer plus profondément, et qu'il n'y a pas de limite. Il y a des limites au niveau du corps, vous ne pouvez pas manger chaque jour un peu plus, par contre vous pouvez adorer chaque jour un peu plus profondément, jusqu'à la fin de votre vie. Et donc, c'est un acte qui remet notre vie. Vous voyez ? C'est très important parce que l'adoration est source d'abandon. Quand on a du mal à s'abandonner à la conduite de Dieu, parce qu'on vit des choses difficiles et qu'il faut s'abandonner à la conduite de Dieu et à sa volonté pour renouveler l'abandon ou le retrouver, il faut aller à la source de l'abandon. Ce qui est source d'abandon, c'est l'adoration. Et donc, le fruit de cette adoration, c'est cet abandon plaignier qui consiste à remettre toute notre vie entre les mains du Créateur et Père pour qu'il la gouverne. Vous voyez, l'adoration a ce fruit merveilleux qu'elle remet notre vie entre les mains de Dieu pour coopérer avec lui, à son gouvernement. Et ça, c'est une chose très importante. Et donc, on découvre dans cet acte qu'il est certes le Créateur de notre être, mais il est aussi du côté du gouvernement, il est notre Père. Et c'est pour ça que on reconnaît cette dépendance qui est une dépendance dans l'ordre de l'amour, et on a cette certitude intérieure qu'on s'adresse à un être vivant, Dieu notre Père, qui nous voit au plus intime de notre cœur et qui n'est pas un inconnu. Et c'est un acte donc qui a quelque chose de merveilleux parce qu'il nous permet naturellement d'avoir une certaine connaissance indirecte, aimante et radicalement filiale, même si elle n'est pas explicitement, à l'égard de Dieu. Et normalement, cet acte d'adoration s'épanouit dans une connaissance intérieure de Dieu et et elle peut s'épanouir dans une contemplation de Dieu qui permet de le connaître de l'intérieur. Dans l'Ancien Testament, vous avez des moments constants où sont présentés ces actes d'adoration à travers le sacrifice. Vous voyez, quand vous prenez l'Écriture, vous avez le sacrifice d'Abel, le sacrifice de Noé après le déluge, qui sacrifie les animaux. Vous avez, après sous la loi, vous avez le grand sacrifice de la Pâque. Vous avez le sacrifice d'Élie. Vous voyez, pourquoi est-ce que l'Écriture présente ces sacrifices? Parce que l'adoration s'achève dans cette remise de notre vie. Et pour manifester dans l'Ancien Testament, pour manifester que Dieu est le maître de la vie, on lui sacrifiait des animaux, en les offrant, pour montrer qu'on reconnaît que Dieu est le maître de la vie, qu'il a tous les droits sur les vivants. Alors on verra la différence entre l'adoration et le sacrifice de chrétiens et l'adoration et le sacrifice dans l'Ancienne Alliance. C'est que dans l'Ancienne Alliance, la victime qui était offerte est différente que celui qui offre, celui qui est prêtre, qui réalise la victime. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, avec le mystère du Christ, le prêtre et la victime sont un, c'est-à-dire que nous devons être à la fois celui qui offre, c'est ça l'attitude du prêtre, du sacerdoce des fidèles, celui qui offre sa vie, et on doit être aussi la victime, celui qui est offert. Ce qui caractérise le sacrifice chrétien, c'est qu'il y a l'unité entre le prêtre et la victime. Tous ces sacrifices de l'Ancienne Alliance sont pour annoncer et manifester le sacrifice du Christ à la croix et pour manifester l'adoration de Jésus, qui est une adoration, comme le dit la Samaritaine, en esprit et en vérité, donc une adoration qui a une dimension nouvelle. Le mystère de la croix est essentiellement un holocauste. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, l'holocauste c'était le sacrifice où tout était brûlé, donc un holocauste d'adoration filiale. C'est aussi un holocauste de réparation et de satisfaction, mais c'est premièrement un holocauste d'adoration filiale. À la croix, le Christ adore son Père. Et saint Paul le dit, vous voyez, en disant « Suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui vous a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur » dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Et la croix est donc le sacrifice par excellence qui glorifie le Père en réalisant l'adoration la plus vraie, la plus filiale qui puisse être. Et déjà, avant la croix, quand Jésus vivait la vie cachée avec Marie et Joseph, ça devait être très impressionnant pour la Vierge Marie de voir la profondeur avec laquelle l'enfant Jésus adorait le Père. Ça devait être très, très impressionnant, ça. La Vierge Marie n'avait pas besoin d'apprendre à l'enfant Jésus à prier, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que dès le premier instant, hein, c'est ce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux, en entrant dans le monde, le Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. » Alors j'ai dit « Voici, je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le livre pour faire au Dieu ta volonté. » Dans l'âme du Christ, dès le point de départ, sa conception, puisqu'il est dit encore dans l'Épître aux Hébreux, en entrant dans le monde, il dit « Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. » L'enfant Jésus, même dans le sein de sa mère, avait conscience qu'il était Dieu. Et donc, les actes du Christ avaient une perfection dès le départ. Et donc, l'enfant Jésus n'a pas eu besoin de Marie pour apprendre à prier, mais c'est plutôt Marie qui a appris à prier en priant avec l'enfant Jésus. Et quand il devait adorer, il était complètement reclus dans son adoration. Ça devait être très impressionnant. On verra ça au ciel. Partie des choses qu'on attend de voir au ciel. Il y a beaucoup de choses qu'on attend de voir au ciel, mais ça notamment, c'est une chose qu'on a vraiment envie de voir. Or le Seigneur, donc Jésus, n'est pas venu supprimer la loi, mais l'accomplir, comme il le dit, l'achever, pour lui donner son ultime signification. Or n'oubliez pas que toute la loi s'enracine dans le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton âme, c'est l'adoration. Vous voyez ? Aimer de Dieu toute son âme, c'est l'adoration. Tout ton cœur, ça peut être un amour humain, mais l'âme, ce qui est propre à l'âme, qui implique le cœur, mais quelque chose de plus radical, eh bien, c'est l'adoration. Et c'est le premier commandement. Et donc, puisque la loi s'enracine dans ce premier commandement, adorer Dieu et n'adorer que lui, eh bien Jésus, qui n'abolit pas la loi, qui ne la supprime pas, est venu vivre d'une manière unique ce premier précepte de la loi. Et il l'a vécu avec une telle intensité d'amour qu'il l'a transformé en lui donnant une nouvelle signification, toute divine, puisque l'adoration, normalement, vous rend serviteur de Dieu. C'est le grand service. Vous voyez, quand dans l'Écriture il est dit, le tablier pour être serviteur, radicalement c'est adorer. Et bien avec Jésus, on passe de l'adoration du serviteur à l'égard de son Seigneur à l'adoration du Fils bien-aimé à l'égard de son Père. L'adoration de Jésus est une adoration qui est humano-divine, donc elle a quelque chose de nouveau, puisque c'est le Fils bien-aimé lui-même qui adore. C'est la personne qui adore. Et donc Jésus a adoré toute sa vie. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'Évangile, il dit qu'il partait dans le désert. Alors Jésus n'avait pas besoin d'aller au désert pour pouvoir adorer. Mais il a fait ça pour nous enseigner, pour nous dire que si on veut adorer profondément, il faut quitter le monde de la vie, le monde des hommes, pour pouvoir... C'est vrai, quand on est au milieu des choses des hommes, ça ne nous aide pas forcément à adorer. Et donc, avoir des moments dans notre année, ou dans notre vie, où on peut avoir des moments de solitude dans des lieux un peu isolés, nous permet d'adorer plus profondément. C'est pour ça qu'il l'a fait. Mais le fait qu'il aille au désert, c'était pour nous manifester qu'il vivait cette adoration. Puisque, j'allais dire, l'adoration elle-même réalise ce désert intérieur. Et le désert, c'est le lieu de la transcendance de Dieu. Dans le désert, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas la place, il n'y a pas la marque de l'homme. Et donc le désert, symboliquement, c'est le lieu où Dieu a toute la place. Et l'adoration elle-même, vous voyez, réalise en nous un désert intérieur, c'est-à-dire non pas un lieu d'aridité, mais un lieu où on est tout tourné vers celui qui est source et fin de toute notre vie. Et c'est à la croix que va s'achever cette adoration filiale, et qui va avoir ceci de particulier, que c'est l'adoration de celui qui non seulement a assumé une nature parfaite, un corps parfait, mais c'est l'adoration de celui qui a assumé un corps labouré par la souffrance, par le péché des hommes, et donc il n'a pas voulu seulement épouser notre nature humaine, il a voulu épouser notre nature humaine défigurée par le péché. Il a voulu aller jusque-là, dans l'unité avec l'homme, s'être uni non seulement à l'homme parfait, comme il l'est à Noël, mais être uni à l'homme abîmé par le péché, défiguré par le péché. Et ça, c'est Jésus à la croix. Et pour comprendre cette transformation de l'adoration qui, je vous redis, est naturelle, fondamentalement, même si aussi dans l'Ancien Testament elle est liée avec la foi, il faudrait regarder tout l'Évangile dans cette lumière, chaque fois que Jésus nous donne une lumière. Et un passage très particulier, vous voyez, c'est les vendeurs chassés du temple. C'est intéressant, vous voyez, le temps du carême est un temps où on doit avoir une connaissance plus profonde de nos fautes, de notre péché, Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est ce qui blesse le cœur du Christ. Or, ne nous faisons pas d'illusions, ce qui blesse le cœur du Christ n'est pas ce qui blesse notre cœur. Parce que nous, au temps du carême, si on fait un gros acte de gourmandise, on dit « Ah, c'est terrible, au temps du carême, j'ai cédé devant ce gâteau qui s'appelle une religieuse. J'en ai mangé trois. Et ça me paraît un péché énorme. Bon. » Et puis l'acte d'orgueil ou les pointes de jalousie qu'on a fait en parallèle, ça ne paraît rien du tout. Au yeux du Christ, l'orgueil et la jalousie sont bien plus graves que la gourmandise. Et donc il faut apprendre à rectifier notre jugement sur nos fautes pour les voir comme Dieu les voit, comme Jésus les voit. Or, pour savoir ce qui le blesse le cœur du Christ, on n'a qu'une seule voie, qu'un seul chemin, c'est l'Évangile. Et donc il faut scruter l'Évangile pour voir ce qui blesse le cœur du Christ. Et pour ça, c'est un très bon exercice de carême, c'est de lire en travers, par exemple, l'évangile de Saint Luc, puis après, si vous avez un peu de temps, vous rajoutez Saint Jean, et notez chaque fois que Jésus réagit. Parce que les réactions manifestent vos vulnérabilités. Et on est vulnérable à des choses très différentes. Il y a des personnes qui sont vulnérables à l'égard de l'ordre des casseroles dans la cuisine. Il y en a d'autres à qui ça est complètement égal. D'autres qui sont vulnérables à l'égard des injustices sociales, et d'autres beaucoup moins. D'autres qui sont vulnérables au manque de vérité dans les enseignements, d'autres beaucoup moins. Et donc, vos réactions manifestent, nos réactions manifestent nos vulnérabilités. Et donc, dans l'Évangile, notez chaque fois que le Christ réagit. Eh bien, et Saint Jean nous montre d'autres vulnérabilités que ne montrent pas les synoptiques. Et notamment, vous voyez, les vendeurs chassés du temple, c'est très intéressant. Les vendeurs chassés du temple, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et le temple, au point de vue spirituel, c'est notre cœur. Et Jésus montre que le temple dans l'Ancienne Alliance, c'était un lieu réservé à Dieu et à l'activité réservée à Dieu. Or, l'activité réservée à Dieu, c'est l'adoration. Et les hommes y ont introduit l'activité du commerce, qui n'est pas tourné vers Dieu, qui n'est pas sacré, tandis que l'adoration, c'est sacré. Et donc, qu'est-ce que Jésus fait dans les vendeurs chassés du temple? Il corrige notre cœur quand il n'adore pas. Les manques d'adoration dans notre vie blessent le cœur du Christ. Vous pouvez toujours scruter votre psychologie, et bien vous ne le verrez pas. Quand on n'adore pas assez, ça blesse le cœur du Christ. C'est ça, les vendeurs chassés du temple. Nicodème, chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean. Les manques de recherche de vérité blessent le cœur du Christ. Très peu notre cœur. Vous voyez, il faut apprendre pendant le carême à avoir un vrai jugement divin sur nos fautes. Il ne faut pas un jugement en fonction de ce qui notre conscience. Notre conscience, elle n'est pas objective. Parce que s'il fait beau, elle est rose. S'il fait mauvais, elle est noire. Vous voyez. Le jugement du Christ ne change pas avec le climat. Hein. Et donc, c'est important que, vous voyez, de découvrir ça. Les manques d'adoration d'un individu blessent le cœur du Christ. C'est la signification des vendeurs chassés du temple. Et c'est important ça, dans le temps du carême, d'avoir ce jugement-là, de discernement, au sens de discernement. Et je vous disais, Jésus, donc, lui-même, non seulement l'a enseigné, mais l'a vécu. Et il prie toujours le Père, mais il veut nous montrer la nécessité de moments et de lieux de séparation de tout ce qui n'est pas Dieu pour le prier avec plus d'ardeur. Et l'autre passage dans l'Évangile où Jésus va parler très explicitement d'adoration, c'est le chapitre 4 avec la Samaritaine. C'est avec la Samaritaine, donc, cette femme qui a ses cinq maris, son cœur n'aime plus, elle n'est plus aimée. Et Jésus va faire, entre guillemets, une petite psychanalyse divine pour essayer de lui faire remonter, pour remonter à la source, nous faire découvrir quelle est la cause de l'égarement de son cœur. Vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, et nos pères disent que c'est sur le mont Garizim. Quand elle était petite, la Samaritaine, à assister à des querelles liturgiques. Et on retrouve ça aujourd'hui. des familles, non, non, il faut prier en latin, il faut aller à la messe en latin, non, non, il faut aller à la messe en français, ou à la messe en irlandais. Oui. Et quand dans une famille, on se querelle pour savoir s'il faut prier en latin, ou en français, ou en irlandais, qu'est-ce qui se passe? Ben, les enfants, ils ne prient plus. Parce qu'ils ne savent pas très bien, ils ne savent plus. Donc elle a insisté, oui, vous vous dites que c'est Jérusalem qu'il faut adorer, nous, nos pères, vous disent que c'est son nom Garizim, et donc un enfant, il ne sait plus, donc il ne prie pas. Et donc elle n'a plus adoré. Et querelle liturgique, faire attention à les familles à l'égard des enfants. Ça fait des dégâts. Et ça fait des dégâts profonds. Et, eh bien, c'est parce qu'elle n'a plus adoré que son cœur n'a plus eu cette rectification constante. Vous voyez, c'est aussi le grand moyen, l'adoration, pour entrer dans une vraie intériorité spirituelle. Faisons bien la distinction entre l'intériorité imaginative et l'intériorité spirituelle. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, quand vous voulez prier intérieurement, vous fermez les yeux, et comme l'imaginaire n'est plus dépendant de la sensation, l'imaginaire a champ libre. Et tout d'un coup, vous êtes en train de penser au dessert que vous avez mangé à midi, au gâteau d'anniversaire de l'anniversaire de Sœur Monique qui avait un goût de crème fraîche absolument extraordinaire, vous voyez, et puis tout d'un coup, vous voyez, et puis ça, c'est sans fin. Et comment faire pour sortir? Et comme nous n'avons pas de pouvoir direct sur l'imaginaire, on a ce qu'on appelle au plan philosophique un pouvoir politique, c'est-à-dire indirect, eh bien vous ne pouvez pas dire à l'imaginaire tais-toi, parce que plus vous le dites, plus ça augmente. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de lutter. Alors, vous savez, c'est comme. Il y a les plumes qui volent, alors ça vous lutter, puis au moment, vous êtes tellement fatigué, vous ramassez les plumes, ça fait un petit oreiller, vous vous endormez, et vous vous réveillez à la fin de la prière. Ah ben, c'est passé très vite, mais vous avez dormi, vous n'avez pas prié. On est comme ça, hein. Quel est le grand moyen pour sortir de l'imaginaire? C'est l'adoration, des actes volontaires d'imagination. Alors, je sais que ça intéresse, David, là, d'utiliser des images, etc. Je crois que nous pouvons le faire beaucoup moins parce que notre imaginaire est beaucoup plus abîmé que celui de Sainte-Thérèse d'Avila. Sainte-Thérèse d'Avila avait un imaginaire beaucoup plus proche des réalités naturelles. Nous, on a un imaginaire abîmé par la publicité, la télévision, etc. etc., etc. Et donc, on peut beaucoup moins l'utiliser. Eh bien, le grand moyen pour sortir de l'imaginaire, quand on s'en rend compte, c'est tout de suite de poser des actes d'adoration. Et à ce moment-là, l'adoration rectifie notre cœur et nous permet de dépasser le point de vue sensible, imaginatif, pour entrer dans une vraie intériorité spirituelle. C'est capital, ça. On a un moyen entre nos mains. Parce que je vous rappelle que quand vous êtes dans une distraction, vous priez, vous n'avez pas le droit d'y consentir. C'est une faute. Quand vous rentrez dans une distraction, souvent vous en rendez pas compte. Et quand vous en rendez compte, vous n'allez pas dire « Ah, oh, je vais rester dans cette petite distraction, comme ça, le temps de prière passera plus vite, et ce sera plus agréable, et comme ça, c'est bon, c'est mieux, tu comprends, et tu pardonnes. » Coopérer à la distraction, c'est une faute. Quand vous rendez compte de l'imaginaire, vous devez sortir de ça et prendre le moyen. Et l'adoration est le grand moyen. Alors, c'est sûr qu'au début, c'est plus difficile parce que l'acte d'adoration n'est pas suffisamment fort, mais plus vous le pratiquez, plus il a une efficacité interne qui vous permet de dépasser l'imaginaire. Et donc, vous voyez, plutôt la Samaritaine, il y avait des oppositions religieuses, des opinions religieuses, des oppositions entre les Israélites et les Samaritains. Vous voyez. Et la réponse de Jésus à cette femme, « Femme, crois-moi, l'heure vient, ce ne sera ni sur une montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure approche, elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. » Vous voyez, devant le risque d'une prière un peu rituelle et qui reste à l'aspect trop extérieur, Jésus rappelle et introduit une adoration beaucoup plus intérieure, beaucoup plus spirituelle, où l'essentiel est mis au cœur. Et ce n'est plus les choses secondaires qui sont importantes, les détails extérieurs. Et Jésus, par là, achève l'adoration qu'avaient déjà annoncé les prophètes. Et cette adoration, elle est caractérisée par une adoration en esprit. Donc là, il s'agit d'une adoration chrétienne, c'est-à-dire liée avec la foi, l'espérance et la charité. L'adoration en esprit, en vérité, c'est une adoration, mais transformée par la charité, qui fait qu'elle est proche de la contemplation, d'ailleurs, elle est entre les deux. Elle touche la contemplation. Et cette adoration en esprit, c'est une adoration qui vient de l'Esprit Saint, qui se fait dans l'Esprit Saint, une adoration qui jaillit de l'amour, et qui doit s'emparer de toute notre âme. C'est ça l'adoration en esprit, et une adoration en vérité, parce que d'une part elle doit s'adresser au seul vrai Dieu, donc elle doit se faire dans une foi de plus en plus lucide, et une adoration en vérité parce qu'elle assume tout ce que nous sommes, la réalité que nous sommes, notre âme et le corps. Et vous voyez, là, on entre à ce moment-là dans une intériorité. Donc, vous voyez, l'adoration en esprit, en vérité, c'est l'adoration du cœur de Jésus. C'est propre à son cœur d'homme. Et en nous unissant dans la foi, au cœur du Christ, en posant des actes d'adoration, en fait, la foi nous unit à Jésus, adorant actuellement au ciel son Père, créateur de son âme, l'esprit en vérité. Vous ne le sentez pas, mais c'est ce qui se passe. Donc, vous voyez, l'adoration de l'esprit en vérité, c'est à la fois un acte d'adoration volontaire que vous faites, mais étant donné que c'est lié à la foi qui veut vivre la communion avec le cœur du Christ, vous adorez avec le Christ, et dans le Christ, et par le Christ, son propre Père. C'est plus seulement l'adoration qui s'adresse au Créateur, c'est une adoration qui s'adresse au Père des cieux, au Père du Fils bien-aimé. Donc à ce moment-là, notre adoration devient un mystère. Parce que, comme elle touche un aspect divin, non seulement humain mais divin, eh bien, elle a quelque chose qui dépasse notre conscience. C'est une adoration beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde. Et vous voyez, c'est ce que nous avons eu le mercredi des cendres, hein, du côté de cette intériorité nouvelle, de l'adoration en esprit, en vérité. Vous voyez, lorsque vous priez, ne faites pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout, dans la synagogue, au coin des rues. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et Jésus, d'autre part, dans l'évangile de Saint Matthieu, ajoute, dans vos prières, ne rebâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils feront mieux écouter. Ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il faut avant que nous le demandiez. Vous voyez, il ne faut jamais oublier que la prière vocale est au service de la prière intérieure, silencieuse. Vous voyez, c'est pas l'inverse. Si on prie vocalement, c'est parce que ça veut nous aider à entrer dans une prière intérieure, silencieuse, et particulièrement par cette adoration en esprit et en vérité. Alors, ce passage-là, ça ne veut pas dire que Jésus, pour que la prière soit bonne, demande que la prière soit rare, vous voyez, ne rabâchez pas comme des païens, puisque n'oubliez pas cette parabole de l'Évangile où Jésus dit qu'il fallait toujours prier sans se lasser. Hein. Donc, c'est pas ça qu'il veut dire. Et aussi, on se rappelle la parabole, vous savez, de l'ami opportun qui ne se lasse pas de frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre, ce qui réclame une très grande confiance filiale, vous voyez. On ne peut prier intérieurement, incessamment, sans se lasser que si on possède cette confiance filiale à toute épreuve. À la prière incessante, hein, prier sans cesse, ça ne veut pas dire que vous devez répéter tout le temps des mots. Comme dit saint Augustin, il y a des moments où on le fait, mais c'est le désir intérieur, la soif de l'âme qui se tourne vers le Père, qui est déjà cette prière. Eh bien, pour pouvoir avoir cette prière constante et croissante, donc il faut cette confiance filiale, et cette confiance à la fois filiale et amicale ne peut pas exister sans une vraie pauvreté du cœur, qui est plus que l'humilité, hein, parce que l'humilité c'est une vertu morale, humaine, qui s'acquiert, tandis que la pauvreté du cœur, c'est le fruit de l'amour, et le fruit de la charité, qui creuse aussi bien dans le cœur que dans l'intelligence, une pauvreté pour le rendre plus capable de recevoir un mystère, qui est le mystère de Dieu, qui dépasse notre capacité. Donc la prière, pour être efficace, elle doit jaillir d'un cœur pauvre et contrit, parce que sinon elle perd son sens, vous voyez. Quand on prie, on n'expose pas à Dieu ses mérites. Vous savez, j'ai vécu un peu en Italie. Et en Italie, vous avez une fois par an, vous savez, comment ça s'appelle, le sang de Saint Janvier qui se liquéfie le jour de sa fête. Alors ce jour-là, son église est archi pleine. Et là, vous avez les mamans italiennes qui sont là pour obtenir que Saint Janvier réponde, qui sortent tous les mérites qu'ils ont faits. Hey, rappelle-toi, j'ai fait des pèlerinages, rappelle-toi, je t'ai donné tant, rappelle-toi. Oui. Oui. C'est la prière où on rappelle ses mérites. Hein. Vous voyez, c'est pas ça la vraie prière. Hein. La prière, c'est être un vrai pauvre. La parabole du pharisien et du publicain est assez claire quand même. Vous voyez. Et ce qui est dit de la prière, d'ailleurs, ce que dit Jésus de la prière est encore plus vrai de l'adoration, qui doit être comme ce qu'il y a de plus caché, de plus profond dans notre cœur. Et c'est cette adoration aimante, filiale, qui habite le cœur de Jésus dans le mystère de la croix. Et ça commence déjà dans le mystère de l'agonie. Dans le mystère de l'agonie, vous saisissez cet anéantissement. Vous voyez, l'adoration vous anéantit intérieurement devant Dieu. Mais un anéantissement d'amour, hein, pas un anéantissement d'esclave. Cet anéantissement du cœur du Christ devant la volonté du Père sur lui. Père, que ce calice s'éloigne de moi, et tout de suite, non pas ma volonté, mais la tienne. Et donc, le cœur de Jésus, dans cet amour filial, remet au Père son désir le plus naturel, le plus spontané de son cœur, et en même temps, il le remet à son bon plaisir, pour que le Père en fasse ce qu'il veut. Et c'est ça le sacrifice intime de l'âme de Jésus. Et cette offrande, c'est l'adoration aimante du Fils qui se présente au Père en se livrant à son bon plaisir. Et cette demande que Jésus fait, que ce calice s'éloigne de moi, le Christ ne demande pas que la croix s'éloigne, parce qu'il est venu pour cela. Il demande par rapport à la manière avec laquelle la croix va se réaliser, parce que Jésus sait qu'il est l'agneau, donc la victime parfaite, capable de réparer parfaitement toute l'offense des hommes, toute l'iniquité du monde. Donc il sait que, en justice, il suffit. Et le Père a voulu, parce que le mystère de la croix n'est pas qu'un mystère de justice, mais un mystère d'amour, donc de surabondance, là où le Père a voulu que la croix surabonde sur Marie, sur l'Église, sur chacun de nous. Et donc la prière du Christ, que ce calice s'éloigne de moi, c'est que le Christ a demandé que Marie et nous-mêmes soyons épargnés, puisqu'il sait qu'il peut suffire à tout réparer. Et ça, c'est son désir légitime, j'allais dire magnanime, de son cœur d'homme naturel. Mais tout de suite, ça c'est la volonté humaine, il se remet dans sa volonté divine, dans sa volonté humaine, il se remet à la volonté divine du Père en acceptant cette volonté. Mais c'est magnifique de voir que le Christ a prié pour que nous soyons épargnés. Et le Père a voulu que le mystère de la croix surabonde sur Marie, sur nous, pour nous donner plus que si c'était uniquement un acte de justice et une réparation en justice par Jésus. Et dans la croix, à l'agonie, c'est donc une adoration intérieure, mais comme c'est une adoration qui est toute d'amour, elle va demander de se réaliser dans son corps. Et c'est ce qui va avoir lieu dans le mystère de la croix, où le corps labouré du Christ nous manifeste le réalisme de cette adoration qui veut que tout soit offert au Père, que tout soit brûlé. Pas seulement intérieurement, mais aussi concrètement dans le corps. Et ça qui est très important, parce que nous avons à vivre, voyez, ce réalisme de l'adoration dans tout ce que nous vivons, y compris dans la souffrance et dans la maladie. Dans la maladie, comme chrétiens, nous avons à le vivre, et la souffrance, nous avons à le vivre dans le prolongement de cette adoration, et offrir notre corps qui pâtit comme cette victime, coopération à la victime, parce que la victime est d'abord intérieure, pour que notre adoration puisse avoir un réalisme tout à fait nouveau. Vous voyez, nous, comme chrétiens, nous ne pouvons pas vivre la maladie, la souffrance, comme ceux qui n'ont pas la foi. Et nous avons à la vivre de la manière avec laquelle le Christ a vécu la souffrance de la croix. C'est-à-dire comme ce qui incarne l'adoration en esprit en vérité, dans une offrande, un sacrifice, qui assume l'offrande de notre corps, de sa santé, de tout ce qu'on est. Vous voyez, c'est important pour que nous ne vivions pas de manière laïque, païenne, la maladie. L'acte d'adoration vous tourne tout entier devant Dieu. Elle ne vous tourne pas vers les hommes, elle vous tourne tout entier devant Dieu. Mais elle va avoir un fruit, grâce à la charité, un fruit merveilleux. C'est comme elle va nous unir au Père, puisque nous adorons par Jésus et avec lui et en lui, et bien, et que le Père, il est source de toute miséricorde, caractérise le Père, c'est la miséricorde. Cette adoration en esprit, en vérité, va être source dans notre cœur d'une miséricorde et d'une charité fraternelle nouvelle pour le prochain. Donc ce qui, normalement, humainement, fait une séparation entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes, puisque naturellement l'adoration vous tourne vers Dieu, pas vers les hommes, et quand vous tournez vers les hommes, c'est pas Dieu. Ce qui est tout à fait nouveau avec la grâce et l'adoration en esprit en vérité, c'est qu'en étant tout tourné vers Dieu, eh bien, le Père lui-même nous unit à nos frères dans une charité fraternelle, miséricordieuse, toute nouvelle, qui réalise un lien avec le prochain, tout nouveau. Et notre adoration en esprit et en vérité devient source d'une nouvelle charité fraternelle à l'égard du prochain. Il n'y a plus d'opposition. Et là, vous comprenez l'expression « la chaîne d'âme ». C'est que l'âme, dans ce qu'elle est plus profond, elle est tournée vers Dieu, elle va vivre de Dieu. Mais si elle vit de l'adoration en esprit et en vérité, eh bien Dieu va réaliser ses liens de charité fraternelle et notamment avec ceux qui eux-mêmes adorent le Père. Et donc, cette unité de cette chaîne d'âme, je crois que c'est une unité intérieure très profonde qu'il faut comprendre. Au-delà du simple mouvement, comme tel, ou de l'institution d'un mouvement, c'est ce trésor très particulier, qui est cette unité entre l'adoration en esprit en vérité et la charité fraternelle que nous voyons dans le mystère de la croix. Au moment où Marie est une avec Jésus dans son holocauste d'adoration, Jésus la donne à Jean pour manifester que c'est dans cette unité avec l'adoration du Fils, l'adoration en esprit en vérité, que naît en elle, selon le vouloir de Jésus, une charité fraternelle à l'égard de Jean, à l'égard de tous les hommes, donc comme mère de l'Église. Donc la chaîne d'âme indique quelque chose, un secret très beau du fruit de la croix, c'est l'unité entre l'adoration en esprit et en vérité et la charité fraternelle et la miséricorde. Et c'est cette unité-là qui unit les deux préceptes, l'amour à l'égard de Dieu et l'égard du prochain, vécu dans l'unité. Je crois que c'est ça le secret de la vie chrétienne. C'est l'unité des deux amours qui ne sont qu'un. Deux exercices différents, bien sûr, puisqu'on adore Dieu, on n'adore pas le prochain, on fait miséricorde à l'égard du prochain et pas à l'égard de Dieu, mais une unité très profonde. Et donc, cette expression « chaîne d'âme » me semble très belle pour exprimer quelque chose de très profond dans la sagesse de Dieu et qui est le fruit du mystère de la croix et de l'adoration en esprit en vérité du Christ à la croix et que Marie vit d'une manière éminente.
Vous allez dire un petit peu le pas que nous allez.
Voilà, nous avions réfléchi. Je vous en ai déjà parlé un petit peu tantôt. Du pas que nous proposions justement dans le sens de l'adoration. Alors nous avons préparé un petit feuillet avec le texte dont je vous ai parlé tantôt et la prière d'offrande qu'a composée Mère de Lescure le jour où elle est partie, où elle a quitté Poitiers. Donc il portait dans son cœur ce souci de Jésus de former une chaîne d'âme. Alors vous avez un petit feuillet, nous allons les distribuer. Vous allez prier maintenant, nous allons à l'adoration et nous aurons, alors le Père proposait de faire, de prier cette prière ensemble, les personnes qui se sentiraient appelées à faire un pas dans le sens de l'adoration. Si vous voulez, vous pouvez cocher ce que vous aimez et le petit signet, vous pouvez me le rendre à l'équipe de manière à ce que nous sachions un petit peu d'autres fois nous rencontrer. Mais voilà, c'est tout simple. C'est tout. Vous pouvez.
Donc à la fin de la messe, je crois. Oui.
Ça pourrait être, cette prière pourrait être dite. L'adoration, ce n'est pas dire des prières, hein, j'espère que vous avez compris, mais ça peut être bon de l'incarner par une prière comme ça, comme une prière commune. Et vous n'êtes pas obligé de répondre aujourd'hui. Hein. Vous pouvez réfléchir pour savoir si vous voulez vous engager, parce que si vous vous engagez, il faut quand même être fidèle à votre engagement, à faire partie de cette chaîne d'âme spirituelle, et donc de cette communion spirituelle de ceux qui veulent vivre de l'adoration, et de l'adoration en esprit en vérité, et qui fait une communion intérieure particulière, tous ceux qui vivent cette adoration en esprit en vérité. Et qui porte le monde. C'est ça qui porte le monde, hein. C'est l'adoration en esprit en vérité. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de répondre aujourd'hui, vous n'avez pas un couperet avec Sœur Monique qui vous attend à la sortie pour dire j'y ai. Vous êtes parfaitement libre. Et vous pouvez prendre le temps, quelques jours, pour lui répondre si vous souhaitez le faire. Voilà. Et donc ce petit signet, il vous est indiqué, vous voyez, pour répondre au désir de Jésus, je m'engage pendant un an. À prendre un temps d'adoration, soit quotidien, soit hebdomadaire, soit mensuel, un temps de un quart d'heure, une demi-heure, une heure, etc. Vous voyez, cet engagement. On a besoin, ça nous aide de prendre des petits engagements écrits, vous voyez, pas seulement oraux. Voilà. Donc on va exposer de nouveau à 4 heures maintenant, on va exposer, et de nouveau, pour ceux qui désirent, il y aura deux prêtres qui confesseront. Dans la sacristie, dans la bibliothèque qui est juste à côté de l'oratoire. Voilà. S'il y a des personnes qui ont du mal à se déplacer pour aller à l'oratoire, vous pouvez passer par la bibliothèque qui est là.
Voilà.
En espérant.
Je ne sais pas si nous aurons l'occasion. Alors, avant que vous vous tourniez vers la tasse de café, je voudrais rappeler chaque petite chose. Notez la récollection suivante du 17 juin. Vous l'avez reçue dans votre enveloppe. Le colloque qui peut se pâter, qui va se pâter.
Sœur Monique, prenez le micro peut-être.
Oh,
micro.
Oui,
redites le 17 juin.
Merci. Voilà. Alors, votre enveloppe, vous n'oubliez pas de la mettre là-bas dans le. Et n'oubliez pas le tronc non plus pour le faire, pour la communauté. N'oubliez pas, si vous voulez bien, de donner votre appréciation sur ce que la manière dont vous avez reçu les choses, bien, mal, mauvais, à changer, à plus jamais dire, etc. Hein? Il y a beaucoup de choses. Bah oui, vous avez eu le plaisir d'avoir 5 personnes, alors voilà, il y en a une que vous pouvez mettre à la porte. Ça peut être. Alors, vos coordonnées, attention, soyez très précis et donnez bien vos mails, s'il vous plaît, si vous voulez l'un ou l'autre enseignement, et voilà. Et aussi, donc, il me semble que j'ai tout dit. Maintenant, vous pouvez passer à la tasse de café. Vous avez tous reçu un brillant avec la prière et le petit. Signe.
Moi, je n'ai pas reçu le petit
signe. Le petit signe. Voilà, très bien. Voilà. Donc maintenant, nous allons là et nous allons après, tout de suite.